Go, go, la revue presse JB.
Bonjour, moi c'est Bruno Roca, ancien journaliste jeux vidéo, actuellement game designer, level designer et chef de projet, oui tout ça, au sein du studio Storybird. Vous êtes en train d'écouter la revue de presse JV, le podcast qui vous livre chaque semaine le meilleur de l'actu jeux vidéo, vu dans la presse spécialisée ou généraliste. Allez, c'est parti! Bienvenue, bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle revue de presse JV. J'espère que le week-end s'est bien passé et que la semaine qui a précédé également. Alors avant d'attaquer l'émission, encore un bien beau programme, j'ai deux choses importantes à vous dire. Tout d'abord, il n'y aura pas d'émission lundi prochain, non, pas d'émission le 18 novembre. Alors pourquoi cela ? Parce que, et je vous en avais déjà parlé lors d'une émission précédente, mais là ça approche, ça se précise, les 16 et 17 novembre prochains, c'est-à-dire le week-end qui arrive, je serai présent tout du long au Marathon Cast, hein, que vous pourrez suivre dès samedi midi hein, jusqu'au dimanche qui suit donc 16h, hein, en direct sur marathoncast.fr ou sur Twitch, hein, sur la chaîne Bad Geek. Je rappelle que le Marathon Cast, c'est un événement caritatif au profit de l'association Espoir Autisme 94. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent très bien que la cause de l'autisme, hein, c'est quelque chose de très important pour moi, étant papa d'un adorable petit Asperger. C'est un marathon donc de podcasteurs. Vous allez retrouver hein, les copains de Level Max, de la Case Rétro, de Gamerside, l'association Games & Co aussi, Emo5.com, J'aime Jouer, Final Cut, TMDJC Podcast, Backlog, VHS et Canapé, Bad Geek, Upcast, Bas Gros Point, B-Side Games, bref, toute une liste hein, à retrouver. Je vous invite vraiment, hein, vous pourrez retrouver toute la liste. Et puis surtout, pour suivre ça, je compte sur vous pour partager un maximum. Hein. Donc n'hésitez pas à aller sur marathoncast.fr. N'hésitez pas à aller sur Twitter et Facebook. Hein. Sur Facebook, vous tapez MarathonCast. Sur Twitter, c'est @castmarathon, tout collé, pour partager un maximum. Et donc, je serai tout du long présent les deux jours pour ce marathon. Il y a un programme absolument fabuleux de prévu. Je participerai à diverses sessions, parce que les noms que je vous ai cités, bah, ce sont des podcasts qui organisent donc, des émissions en live. Je me suis inscrit à pas mal de créneaux. Je ne ferai pas de revue de presse JV sur place, puisque l'événement pour moi ne se prête pas à l'ADN de l'émission, mais je serai présent physiquement, je participerai à pas mal de créneaux pour sensibiliser à la cause et pour essayer de pousser au mieux à mon tout petit niveau ce projet caritatif donc, hein, qui je le répète est au bénéfice de l'association Espoir Autisme 94, hein, c'est une association qui accueille donc, des enfants autistes qui ne peuvent pas être scolarisés ou intégrés dans d'autres structures. Donc je compte vraiment sur vous pour partager un maximum, hein, ces marathons. Allez sur les réseaux sociaux et vraiment allez-y, allez-y, allez-y à fond, c'est très 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 important. Vraiment, je compte sur vous, ça me tient énormément à cœur. Et deuxième information, introduction très longue hein, cette semaine, c'est que la nouvelle grande revue de presse JV est disponible, la toute première de cette saison 3, où avec des contributeurs de l'émission, nous revenons sur la Nintendo Switch, car on a beaucoup de choses à dire sur la console de Nintendo. On va parler de nos habitudes de jeu, on va parler du sujet qui fâche, en tout cas particulièrement pour moi, les Joy-Con, pas mal de choses. Donc ça dure 2 heures, c'est disponible dans ce même flux, donc n'hésitez pas à y jeter une oreille. Et donc sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est donc de dévorer une bien belle brochette de news. Allez, c'est parti. Death Stranding sur PC, vous le savez, on en a parlé la semaine dernière, on a parlé de l'accueil critique, on a parlé de la sortie PC, et ben ça se passera sur Steam et aussi sur l'Epic Game Store, c'est culturegeek.fr hein, qui nous parle de ça, et qui nous rappelle déjà hein, que le jeu sera dispo pour l'été 2020, et donc ce sera sur Steam et l'Epic Game Store. Il est d'ailleurs déjà possible, hein, nous dit le site, de précommander le jeu à partir de maintenant. La page Steam est disponible, et celle de l'Epic Game Store aussi. Le jeu est affiché à 59,99€ hein, pour les deux stores. Et entre-temps, GameCult a confirmé, là au moment où j'enregistre l'émission, que l'éditeur 505 Games hein, a indiqué que la parution sera bien simultanée sur les deux stores en même temps. Donc il n'y aura pas de bagarre à ce niveau-là. Tout le monde est content. L'UFC, que choisir, met en demeure Nintendo dans l'affaire du Joy-Con Drift. C'est Nintendo Différence hein, qui nous parle de cela et qui nous rappelle tout d'abord que le Joy-Con Drift, hein, c'est un problème très connu. Hein, j'en suis énormément victime, voyez-vous, je n'en puis plus. C'est un problème très connu et répandu, nous rappelle Nintendo Différence, et qui se manifeste par le fait que, sans action de la part du joueur hein, sur le pad de l'un des Joy-Con, le personnage avance tout seul de façon désordonnée, le curseur se déplace tout seul, bref, le stick se met sur une position et n'en bouge plus, et alors là pour jouer, pour naviguer, etc., c'est complètement foutu. Alors parfois ça commence un tout petit peu comme ça, c'est pas trop gênant, puis au bout d'un moment ça devient un enfer. Et donc la puissante association française de consommateurs UFC Que Choisir met en demeure Nintendo donc dans cette affaire du Joy-Con Drift en lui reprochant deux choses. D'une part, ne proposer aucune réparation gratuite ni échange standard aux joueurs alors que la plupart des produits sont sous garantie. Et d'autre part, d'avoir volontairement proposé des manettes embarquant de l'obsolescence programmée. D'ailleurs, l'association lance un grand appel à témoignages pour faire pression sur Nintendo. Autre reproche que fait UFC Que Choisir à Nintendo, le refus systématique de la marque de réparer gratuitement ou d'échanger le produit défectueux contre un produit neuf alors que de nombreuses consoles ont moins de 2 ans. L'association nous rappelle, je cite, hein, « Le cycle de vie réduit de ces manettes est d'autant plus inquiétant que ces pannes font rarement l'objet d'une réparation ou d'un échange gratuit par la marque une fois la garantie constructeur dépassée. En effet, lorsque le consommateur envoie à Nintendo son Joy-Con défectueux, le fabricant lui propose son remplacement par une nouvelle manette moyennant 45€. Le joueur a alors le choix entre 3 options. Accepter cette proposition, ou se faire renvoyer sa manette défectueuse moyennant 15€, ou laisser Nintendo détruire son produit. » Quand même, je le répète, hein, jusqu'à plus soif depuis pas mal de semaines déjà dans l'émission, mais c'est proprement scandaleux. Bref, l'UFC Que Choisir nous dit, je cite à nouveau, que ces pratiques visant à réduire délibérément la durée de vie du produit pour en augmenter le taux de remplacement relèvent de l'obsolescence programmée. L'UFC Que Choisir met donc en demeure formellement Nintendo de réparer gratuitement les manettes. Nintendo Différence nous rappelle que dans d'autres pays, des actions similaires sont en route et Nintendo va devoir assez rapidement revoir sa stratégie de communication au risque d'affronter un procès qui pourrait lui être coûteux, en plus d'écorner gravement son image. Donc affaire à suivre, hein, comme on dit, et je vous en reparle très prochainement dès qu'on aura la suite de cette histoire à se mettre sous la quenotte. De son côté, Square Enix nous parle d'une nouvelle franchise next-gen orientée action. Et oui, car la next-gen approche, vous le savez, c'est GamerGen.com qui nous parle de ça et qui nous dit que Square Enix accélère visiblement le rythme hein, en lançant de nouvelles offres d'emploi pour ses studios japonais. D'un côté donc, hein, le site nous résume bien ça, d'un côté nous avons le projet de la Development Division 3, hein, dirigé par Naoki Yoshida, qui refait parler de lui. Alors on savait déjà qu'un développement à grande échelle avait commencé, mais alors que la branche cherche à renforcer le nombre de ses talents, la page de recrutement a été mise à jour avec une alléchante illustration, très belle illustration d'ailleurs. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est, le site se demande si ce ne serait pas un nouveau Final Fantasy en vue, est-ce que ce serait un RPG solo ou un remplaçant à FF14, seul l'avenir nous le dira, effectivement. Mais GamerGen poursuit en nous expliquant que ce n'est pas la seule chose hein, qui se trame en ce moment chez Square Enix, puisque sans surprise, l'éditeur cherche à prolonger la saga Kingdom Hearts dans un avenir proche. Il veut aussi explorer de nouvelles licences. Donc avec la First Development Division de Yoshinori Kitase, la division derrière FF13, le remake FF7 ou là le retour de Romancing Saga 3, et donc toujours via un site de recrutement, Square Enix indique travailler sur une franchise originale non annoncée pour les consoles haute définition. Ça fait un petit peu longtemps hein, qu'on est en haute définition, ou alors il aurait fallu préciser très haute définition, je ne sais pas si on parle de 4 ou 8K. Donc ce serait une expérience next-gen. Donc ça bouge chez Square Enix en ce moment, et c'est normal puisque comme toutes les grosses boîtes en ce moment, bah, on a en ligne de mire les prochaines PlayStation et Xbox. On va parler d'un créateur que j'aime beaucoup, vous le savez, c'est Suda51, Goichi Suda, qui nous parle du développement de No More Heroes 3, que j'attends comme un fou, comme un soldat, vous le savez. C'est Gameblog.fr qui nous expose ceci, en nous disant que Travis Strike Back No More Heroes n'aura donc pas suffi hein, à satisfaire l'insatiable appétit scatophile du boss de Grasshopper Manufacture. Alors le côté scatophile fait très certainement allusion que dans les No More Heroes, pour sauvegarder, il faut aller faire un popo aux toilettes. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs, c'est vrai que le Travis Strike Back No More Heroes m'avait vraiment déçu. J'aime énormément Suda, je suis très très fan de moult jeux et de la saga No More Heroes. Mais c'est vrai que le spin-off Travis Strike Back m'avait un petit peu déçu. Bref, donc, Suda 51 n'a pas tardé à mettre en chantier un troisième épisode numéroté, plus de 10 ans après le No More Heroes 2. Bon, ceux qui ont joué à Travis Strike Back voilà, savent que le 3 était de toute façon en route. Alors si la finalisation de No More Heroes 3, nous dit le site, hein, semble encore bien lointaine, hélas, Goichi Suda a décidé de prendre la parole en accordant une interview. Et bien qu'il botte en touche, hein, selon Gameblog, dans cette interview concernant de nombreux aspects du jeu, on apprend tout de même hein, que ce No More Heroes 3 ne disposera pas du plus gros budget de l'histoire de Grasshopper, mais que l'open world sera tout de même conservé et d'après Goichi Suda, je cite, hein, « ce sera sans aucun doute un monde ouvert plus grand que celui du premier No More Heroes, mais il ne faut pas oublier que nous sommes un studio de taille moyenne. Il faut beaucoup de compétences, de sagesse et de ressources pour créer un jeu en monde ouvert. Il ne sera donc pas aussi volumineux que ce que vous pouvez trouver chez des gens comme Ubisoft ou Rockstar. » Et c'est tant mieux, je pense, puisque de toute façon, No More Heroes ne s'y prête pas. Alors, je rappelle que dans le 2, effectivement, on allait de mission en mission, il n'y avait plus trop de monde ouvert, mais que dans le 1, on se baladait en moto ou à pied dans la ville de Santa Destroy. C'était un tout petit monde ouvert, est-ce qu'on peut vraiment parler de monde ouvert, qui était un peu cheapos, mais en même temps tellement décalé et tellement what the fuck par moment, ce qui fait la patte aussi à Suda 51, que c'était super fun de la parcourir. Bref, donc, on apprend que le jeu est actuellement fini à 35 ou 40%, et que la bande-son sera cette fois-ci composée par un certain Nobuaki Kaneko, un batteur de punk rock hein, qui a déjà œuvré pour la télévision et le cinéma. Donc le jeu est calé, toujours pour 2020, et un nouveau trailer devrait débouler entre la fin de l'année, là, 2019, et le début d'année 2020. On va finir cette brochette de news en allant chez Gamekult, qui nous parle de Herman Hulst, alors je ne sais pas si je le prononce bien, qui est le nouveau patron des Sony Worldwide Studios. Effectivement, le site nous dit que dans le cadre de sa restructuration internationale, Sony Interactive Entertainment a nommé donc Monsieur Hulst, le fondateur et directeur général de Guerrilla Games, au sommet donc de sa famille de studios de développement. Le néerlandais occupe désormais seul une position que se sont partagées ces dernières années Sean Layden et Suhei Yoshida. Donc, Monsieur Hulst, hein, c'est le fondateur hein, et le directeur général de Guerrilla Games depuis 2001, studio qui a donné naissance à la franchise Killzone et qui a lancé un des plus gros succès de cette génération en matière de nouvelles licences avec Horizon Zero Dawn, une merveille vraiment que j'ai adoré, dont le moteur Decima, rappelons-le, a été utilisé par Hideo Kojima et ses équipes hein, pour Death Stranding. Et d'ailleurs, Gamekult de nous rappeler que Guerrilla Games a contribué activement au développement du nouveau jeu donc du sieur Kojima. Et donc Monsieur Hulst prend les commandes, c'est vrai, d'une bien belle famille de studios, hein, comprenant Naughty Dog, Bend Studio, San Diego Studio, Japan Studio, Polyphony Digital, Media Molecule, Sucker Punch, Santa Monica Studio, London Studio ou encore Insomniac Games, la dernière acquisition du groupe. Donc ça fait du beau linge. Et c'est vrai qu'au niveau de mes goûts personnels, je me sens beaucoup plus proche de ce que propose cette famille de studios que ce qu'on peut voir chez Xbox. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une certaine pluralité hein, dans les propositions et que tout le monde trouve son bonheur. C'est le joueur, hein, c'est très cliché de dire ça, mais qui s'en retrouve gagnant au bout du compte. Allez, on passe à la suite. Débriefons mes chers amis, toujours de manière assez rapide, hein, mais efficace, voyez-vous, le sondage que je vous avais donc posé la semaine dernière en vous demandant vos retours sur cette BlizzCon 2019 qui a fait tant et tant parler, et je vous en ai donc parlé aussi la semaine dernière dans l'émission. Alors je vous demandais un petit peu voilà, votre sentiment hein, au sortir de cette BlizzCon 2019. Pour 12% d'entre vous, sur 76 votants, ça n'a pas beaucoup voté encore cette semaine, vraiment, vraiment, il faut se remobiliser. Hein. Donc sur 76 votants, vous êtes 12% à m'avoir dit que c'était magique. Vous êtes resté pantois, vous avez pleuré devant les trailers, devant les vidéos d'Overwatch 2, de Diablo 4, ça a été bonheur et cotillon pour vous. 24% à me dire que c'était très sympa, c'est pas mal vraiment. Bif bof, 14%, et 50% d'entre vous, Naz ou Osef. Alors visiblement, sur ces 76 personnes qui ont voté, vous n'êtes pas nombreux à être super client Blizzard, ou alors vous êtes client Blizzard et vous avez été déçu. En tout cas, 50% quand même, hein, Nas ou Osef, c'est complètement à contre-courant des réactions que j'ai pu voir, puisque vraiment, mais j'en parlais dans l'émission la semaine dernière d'ailleurs, les retours que j'ai vus sur les réseaux sociaux bah, étaient vraiment assez fous. Bref, ce n'est pas grave, tournons la page, il y a un nouveau sondage, là. En ce moment, là même où j'enregistre, dimanche après-midi, sur le compte Twitter de l'émission, @revuedepresse.jv, tout collé, où je vous demande, eh ben, si vous êtes un petit peu saucé, hein, comme disent les jeunes, par Star Wars Jedi Fallen Order. N'hésitez pas à répondre, ça se passe sur Twitter. Je n'en dis point plus, vous découvrirez ça par vous-même. C'est cadeau, c'est la maison qui offre. Merci à tous les votants. Et j'espère que là, pour ce nouveau sondage, vous allez être quand même un peu plus nombreux que cela. J'espère tout du moins. Spatial, textuel, oulipesque, l'étonnante grammaire du jeu vidéo. Voici un papier que j'ai vraiment beaucoup aimé, signé William Oduro sur lemonde.fr, et qui nous explique que l'université de Lausanne accueillait fin octobre une trentaine de chercheurs pour tenter de mettre au jour l'existence d'une grammaire du dixième art. Oui. Alors on nous dit que, alors que la grammaire du cinéma est passée dans le langage courant, prise de vue, montage, cadrage, etc., les moyens par lesquels le dixième art s'exprime, hein, donc le jeu vidéo, échappe encore aux théoriciens. Pour y remédier, nous dit William Oduro, une trentaine de chercheurs français, suisses, belges et québécois ont consacré un colloque à la question « Les langages du jeu vidéo ». Donc ça s'est déroulé du 24 au 26 octobre à l'université de Lausanne, en Suisse, bien sûr. Textualité, code, langage spatial et même figure de style, durant 3 jours sans arriver à une théorie globale, mais en défrichant néanmoins ses spécificités, ils ont ouvert de nouvelles manières de réfléchir justement à ces spécificités. Le papier nous dit on part d'un constat simple, hein, c'est que les jeux passent leur temps à communiquer avec le joueur. Voilà, ça c'est la base bien sûr. Que ce soit pour lui expliquer les règles, l'immerger dans un univers fictif ou encore lui indiquer plus ou moins explicitement la marche à suivre. Cette communication peut être bêtement textuelle. Hein, le seul Skyrim compte pas moins, nous dit-on, de 400 lettres, parchemins ou livres consultables dans le jeu et la saga entière, 3498 écrits de toutes sortes. Marine Vauquier, hein, qui est chercheuse en sciences du langage et stylistique à l'université Toulouse Jean Jaurès, nous dit, je cite, « On trouve des recettes, parfois des textes très longs, comme des romans, ou des livres d'histoire sur une ville ou un personnage, ou encore des pièces de théâtre. » Le papier poursuit en nous disant que cette dimension textuelle est souvent sous-estimée, notamment car les formats sont plutôt courts et discrets. Entre 90 et 150 mots en moyenne pour les règles dans le jeu de cartes Hearthstone, hein, ont calculé Jérôme Jacquin et Eric Xantos, qui sont chercheurs en sciences du langage et de l'information à l'université de Lausanne. Mais un jeu de rôle comme Tyranny, par exemple, comprend lui 600 000 mots, soit l'équivalent de Guerre et Paix de Léon Tolstoï, tandis que World of Warcraft atteint 12 millions de mots, soit 6 fois plus que Le Seigneur des Anneaux. La plupart du temps, donc, nous dit William Oduro, le jeu vidéo communique surtout de manière muette, visuelle. C'est un éclairage plus fort qui interpelle l'attention du joueur sur une porte, hein, qu'il n'aurait pas vue, ou un monument massif à l'horizon qui suscite sa curiosité ou oriente son exploration. D'ailleurs, c'est assez impressionnant si vous avez le temps de vous... Même sur YouTube, vous avez des vidéos qui vous expliquent bien ça. Mais la science du LD, tout simplement, faites des recherches sur les vidéos qui tournent autour de Breath of the Wild. Ce Zelda est notamment impressionnant, pas que pour ça, mais notamment sur le fait qu'on arrive à s'y retrouver juste par cette science du level design, juste par des repères visuels qui sont subtilement placés, que ce soit au loin ou un peu plus proche de nous. Tout est disposé vraiment de manière tellement minutieuse qu'on ne se perd jamais. Et ça, si vous voulez, c'est un véritable talent. On ne se rend pas compte le nombre d'heures de travail que cela demande. Et effectivement, le travail sur les éclairages aussi, c'est très important. Et donc oui, le papier nous dit que c'est une manière de faire faire, hein, autant que de faire savoir. Hein. C'est ce que relève le normalien Guillaume Grandjean, agrégé de lettres et doctorant en sciences de l'information et de la communication à l'université de Lorraine. Ce dernier a étudié la grammaire spatiale d'une des références en la matière, la série The Legend of Zelda. Bah voyez, on parlait de Zelda. Pour aiguiller le joueur et le mettre sur le bon chemin, la série de Nintendo a développé tout un répertoire, indices visuels sur la carte du monde, pancartes, escortes, fées, hiboux, bateaux parlants, etc. Donc là, c'est la série Zelda plus en général et pas forcément Breath of the Wild qui lui est parti dans quelque chose de beaucoup plus gargantuesque en la matière. Bref, toute une rhétorique déambulatoire, estime Guillaume Grandjean, qui reprend certains lieux communs, hein, comme la grotte cachée derrière une cascade, et en popularise de nouveaux, comme la cache sous une pierre tombale ou même la salle vide que le joueur apprend à considérer comme louche. Monsieur Grandjean nous dit, je cite, « Le joueur est habitué à évoluer dans un environnement télé-autopique, c'est-à-dire où il y a toujours quelque chose à trouver. Quand on arrive dans un espace vide, on en vient à deviner qu'il y a quelque chose à faire. » Ce qui peut mener d'ailleurs, je refais une parenthèse, hein, je suis désolé, mais ce qui peut générer chez certains joueurs une certaine frustration. Regardez certaines critiques qui reviennent sur Death Stranding comme quoi le monde est grand mais qu'on croise pas grand monde. monde. C'était parfois une critique qu'on pouvait entendre aussi sur Zelda Breath of the Wild, etc. Ou certaines grandes contrées de Red Dead 2. Est-on vraiment obligé de croiser toujours du monde pour vivre une expérience intense et forte? Je ne crois pas. Voilà. Je suis même convaincu que dans des lieux qui ne sont pas très habités, c'est la qualité du level design, la qualité de l'ambiance, de l'immersion, et du gameplay aussi, bien sûr, qui, là, va vous créer une expérience forte ou pas, après, selon les sensibilités de chacun. Après, on peut avoir des mondes vides qui sont complètement nazes, bien sûr, hein, ça n'empêche pas. Bref, on nous dit que malheureusement, de toute façon, il n'existe pas encore à ce jour de théorie globale sur la grammaire du jeu vidéo. La recherche vidéoludique, nous dit Le Monde, est née il y a 20 ans. Ces chercheurs sont jeunes, et de nouveaux concepts continuent d'émerger, comme celui très joli de Ludem. Alors Ludem, c'est un terme qui est emprunté aux sciences du jeu et adapté très récemment au monde de la manette. Un Ludem, qu'est-ce que c'est? Eh bien le doctorant en linguistique Damien Hansen nous explique, c'est l'élément utile le plus minimal d'un jeu vidéo, comme une épice ou un ingrédient de cuisine. Cela peut être un rocher que l'on fait exploser dans Zelda, l'escalier que l'on crée dans Fortnite ou un bonbon à assembler dans Candy Crush Saga. Un composant trivial et pourtant indispensable. Sauf que dans ce médium, à l'inventivité surprenante, et nous serons tous d'accord là-dessus, les Ludem ne sont pas de petites choses sages. Dans What the Golf, par exemple, je vous en ai parlé, hein, What the Golf, hein, je vous en parle souvent, j'ai vraiment trop hâte de le faire, parodie absurde hein, de golf, on peut aussi bien envoyer la balle dans le trou que le trou dans la balle. Damien Hansen nous dit « Le jeu est d'autant plus intéressant qu'il mise sur l'interchangeabilité des Ludem. Chaque élément, golfeur, œuf, maison, chaise de bureau, etc. est bel et bien différent, mais peut endosser le rôle de la balle de golf. » Du reste, nous dit William Oduro, personne ne sait exactement à l'avance à quelle sauce les joueurs vont être mangés. Jouer, c'est interpréter, et c'est parce qu'il y a une interprétation possible qu'il y a possibilité de jouer, pointe Maude Bonenfant, professeur en sémiologie à l'Université du Québec à Montréal. Elle donne notamment l'exemple du conk jumping, le fait de sauter dans un jeu de tir en s'aidant du souffle des grenades. Une pure invention des joueurs, permise en détournant les objets de leur fonction. C'est vrai que c'est un exemple quand même très connu. Alors, preuve qu'il existe une grammaire du jeu vidéo, des chercheurs s'amusent à la casser à la manière des poètes oulipiens. Fanny Barnabé et Pierre-Yves Hurel, membres du Liège Game Lab, ont ainsi émis avec enthousiasme la possibilité de créer des figures de style propres aux jeux vidéo. Le duo a ainsi présenté des figures Mario-esques syntaxiques, attention, développées par l'éditeur de niveau Super Mario Maker 2, comme un niveau dans lequel il faut absolument se faire toucher par un ennemi pour pouvoir s'extraire d'un piège, ou un autre dans lequel le joueur ne doit surtout pas sauter, pardon, sous peine de mourir. On a appelé ça une ellipse actionnelle car il y a une attente dans un Mario qui est de sauter et celle-ci est absente ici, se félicite Pierre-Yves Hurel. De son côté, nous dit le papier, Stéphanie Madère, docteur en sciences informatiques au Conservatoire National des Arts et Métiers, le CNAM, fascinée par le système de tirage pseudo-aléatoire des pièces dans Tetris, a imaginé et programmé trois variantes du célèbre jeu, en modifiant les règles d'apparition de ces pièces. La plus vicelarde, baptisée Not Nice, envoie exprès les pièces dont le joueur n'a pas besoin, puis lui envoie celle qu'il attend une fois qu'il a partie perdue ou n'en a plus besoin. Reste à trouver un nom pour cette figure de style qui consiste à faire volontairement enrager le joueur. Dans une autre, plus notre score est élevé, plus le jeu nous envoie des barres permettant de réaliser des lignes de 4 qui elles-mêmes font exploser le score. Une métaphore très bourdieusienne, nous dit-on, des dynamiques de classe dans une méritocratie entièrement traduite dans la grammaire du jeu vidéo. Alors, ça peut paraître un petit peu too much, hein. Le propos, je trouve, est quand même assez intéressant. Enfin, on nous donne l'exemple de Rémi Soyer, artiste-chercheur à l'université Paris 8, qui s'est, lui, spécialisé dans les expérimentations provocatrices jouant avec les possibilités du médium, comme le minimaliste Every Day I'm Working, constitué de 6 scénettes anodines se jouant toutes de la même façon, en reproduisant le même geste, à la manière d'une rime, explique son auteur. Alors, certains y verront peut-être une intellectualisation à outrance, là pour les derniers passages que je viens de vous citer, mais la grammaire du jeu vidéo, c'est très intéressant et je pense que c'est nécessaire vraiment qu'elle s'étoffe et qu'elle s'impose de plus en plus. En tout cas, toutes ces réflexions sont très intéressantes. C'est à retrouver sur lemonde.fr, hein. Comme d'habitude, hein, le lien sera dans la description de l'émission. Bravo Monsieur Oduro, bravo Le Monde. Oui, je ne suis qu'amour, vous savez, ça n'a pas changé. Vous aimez la revue de presse JV et vous désirez soutenir l'émission tout en obtenant de chouettes contreparties? Eh ben, il y avait une page Tipeee pour cela. Il y a toujours une page Tipeee pour cela. Et je remercie d'ailleurs tous les tipeurs vraiment de me soutenir. Merci à eux. Mais en plus du Tipeee qui reste en place, hein, si vous êtes sur Tipeee, ça ne change rien. Il est en place, ça ne bougera pas. Mais en plus du Tipeee, il y a maintenant aussi un Patreon. Le Tipeee n'est plus seul, il a un camarade. Donc c'est patreon.com/larevuedepressejv, tout collé. Vous pouvez me soutenir via Patreon, comme vous pouvez me soutenir donc sur Tipeee, tipeee.com/larevuedepressejv. Vous savez, donc ça vous donne maintenant deux moyens pour me soutenir. Les contreparties sont les mêmes, les paliers sont les mêmes. Les contreparties, donc, je les rappelle, hein, c'est avoir accès en avance au sommaire de l'émission et de ses modifications tout au long de la semaine. Donc ça, sur la page Tipeee et sur la page Patreon, maintenant, vous avez accès à cela. C'est-à-dire qu'au fil des jours, vous pouvez voir vraiment l'émission, le chemin de fer de l'émission, le sommaire se construire avec ses modifications, etc. Vous avez donc la possibilité d'avoir accès donc, à toutes les news hein, de l'émission. Chaque mois, je fais un point sur l'audience, par exemple. Parfois, je vous fais des petits billets, etc. Donc ça, c'est que pour les tipeurs et pour les Patreons. Aussi maintenant, désormais, vous avez la possibilité donc de proposer des sujets pour la brochette de news, des coups de gueule, des coups de cœur, vous le savez, et vous avez aussi la possibilité de participer à la grande revue de presse JV ou de chez vous, tranquillement, avec votre micro, votre connexion internet, vous pouvez participer donc à cette grande émission à mes côtés. Voilà, donc désormais, il y a le Tipeee, il y a aussi le Patreon, donc si vous voulez me soutenir, je vous en remercie vraiment grandement, et je fais mille bisous vraiment à ceux sur Tipeee et au futur sur Patreon de me soutenir, car vraiment cet engagement que vous avez envers l'émission, c'est vraiment ce qui me donne la patate de n'avoir aucun jour de repos finalement, car je fais l'émission, vous le savez, le week-end et certains soirs de semaine en plus de mon boulot. Et au-delà du type, de l'aspect financier, c'est vraiment cet engagement que vous avez envers l'émission, bah, ça me touche vraiment toujours beaucoup. Bref, alors cette semaine, il n'y a pas de coup de cœur ni de coup de gueule. C'est la première semaine que ça arrive depuis le début de l'émission. Alors peut-être que l'actualité n'a pas été assez florissante ces derniers jours. Je compte sur vous pour vous remobiliser et pour l'émission donc dans 15 jours, par la semaine prochaine, puisque je le rappelle, il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, comme je vous l'expliquais en intro. Je compte sur vous, voilà, pour me livrer de beaux coups de gueule et coups de cœur donc pour la prochaine émission. Alors le jeu qui passe le grand test cette semaine, c'est Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Alors a priori, c'est pas celui qui semblait justement le plus prioritaire, mais je sais que vous êtes beaucoup comme moi à jouer en famille, que ce soit en couple, avec les enfants ou avec des amis. Et c'est vrai que celui-ci, c'est quand même une sortie là en fin d'année qui peut faire quand même envie en se disant on va jouer ensemble pour les fêtes de fin d'année, etc. Ça peut être très chouette. Et donc je trouvais ça très important. On se posait la question avec mon fils de le mettre sur la liste du Père Noël. Et voilà, vous verrez qu'il y a des questions à se poser. JV.com nous rappelle que depuis 2007, hein, donc Mario et Sonic sont devenus les meilleurs amis d'aujourd'hui, hein, puisqu'ayant effacé leurs différends grâce au sport, Mario et Sonic coulent des jours paisibles et reviennent régulièrement sur nos consoles en profitant des Jeux Olympiques d'été comme d'hiver. Donc une belle histoire, hein, nous dit-on, effectivement, qui dure depuis 2007 et les éditions se sont succédées. Là, c'est la toute nouvelle édition, donc hein, c'est l'édition Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Et donc, quel a été l'accueil de cette nouvelle édition sur Switch, hein, est-il besoin de le préciser ? L'accueil est assez contrasté, n'est pas non plus un bashing voilà, énorme, donc, mais il y a le pour et il y a le contre, hein, comme on dit. Gameblog, sous la plume de Julien Hiverneau, met 6 sur 10, hein, et nous dit « Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 possède ce petit truc en plus par rapport aux jeux précédents, à savoir des épreuves rétro éminemment sympathiques au regard des plus nostalgiques. Il y a un aspect de brochure touristique, alors de brochure touristique, il y a un petit doublon là de la part de Gameblog, il faudrait corriger ça. De brochure touristique, disais-je, interactive sur Tokyo et les Jeux Olympiques qui se parcourent agréablement pour qui aime se cultiver sur ces deux sujets. Ça, c'est un point qui a l'air intéressant. Pour le reste, donc nous dit Julien Hiverneau sur Gameblog, à savoir ce qui constitue quand même le cœur du jeu, cette édition ne semble pas encore vouloir s'imposer parmi les classiques du genre multijoueur familial. La faute à des épreuves au gameplay parfois trop complexes, d'autres fois trop basiques, ne permettant au final à aucune de sortir vraiment du lot et laissant sur le visage de ceux qui participent une moue plutôt qu'un sourire dans la majeure partie des cas. Sur GameCult, ça a été beaucoup plus sévère, 4 sur 10, hein, c'est Luma qui s'est chargée de la critique. Elle nous dit « On a sué, on a transpiré, et on s'est donné sur chaque épreuve de ce Mario et Sonic, mais rien n'y fait. Par une mise en scène approximative, des didacticiels peu clairs, une certaine mollesse générale et un manque de compétition acharnée, ce nouvel opus peine à convaincre. Alors oui, à plusieurs, en se démenant pour se coordonner au badminton ou au kayak, pourquoi pas. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques reste une licence de party game et il n'y a bien qu'en multijoueur où on lui voit un intérêt. Mais malgré le soubresaut que proposent les épreuves 2D de Tokyo 1964, quitte à voyager dans le temps, on préférera revenir plutôt en 2008 et rebrancher son illustre ancêtre sur Nintendo Wii. Alors Luma nous dit 2008, Gameblog nous dit 2007. En direct live différé, je vais vérifier, c'est ça la magie du podcast, on peut se permettre ce genre de choses. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, le premier jeu est sorti en 2007 sur Wii. Alors c'est la version DS qui est sorti en 2008. Il semblerait donc que Luma se soit trompé d'une petite année. C'est pas bien grave, ça arrive à tout le monde. Logan, lui sur JV.com, met 12 sur 20 au jeu et nous dit que ce nouveau Mario et Sonic n'entend nullement chambouler nos habitudes et reste sur le fond très classique si on le compare au précédent épisode. On ne jouera donc pas les étonnés en constatant que plusieurs épreuves, sur la trentaine de disponibles, sont peu intéressantes et que le gameplay, malgré plusieurs configurations possibles, ne franchisse jamais le pas en optant pour quelque chose d'un peu plus compétitif à la façon des track and field ou autres Olympic Games. Enfin, bien que Sega ait essayé de soigner le mode histoire, il n'en reste pas moins trop longuet et sans véritable intérêt. Toutefois, avec sa formule soignée, son multijoueur local et online gonflant la durée de vie, cette nouvelle itération des Mario et Sonic se laissera apprécier le temps de quelques parties. On regrettera néanmoins que la concurrence ait depuis longtemps déserté le domaine des multi-épreuves, ceci n'aidant pas vraiment Sega à revoir sa copie autrement que par le biais d'ajouts de nouvelles épreuves. Bon, je pense que pour les critiques françaises, on va s'arrêter là. D'habitude, je vais un peu plus loin, mais bon, là, vous avez compris comme l'esprit. Du côté de chez nos amis italiens, Spazio Games, lui, met 8,2 sur 10. On nous dit, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques Tokyo 2020 est l'un des meilleurs épisodes de la série, un épisode très en forme, après deux volets assez ternes. Alors oui, ils sont plutôt convaincus. Check News, lui, met 9 sur 10, carrément. On nous dit que c'est un excellent jeu avec une bande-son fabuleuse et du bon fanservice pour les amateurs des deux franchises. Le mode histoire permet d'initier les joueurs à tous les mini-jeux, tout en leur faisant découvrir la riche histoire et la culture de Tokyo. Ça, c'est vraiment un point qui a beaucoup plu. Hobby Consolas en Espagne, lui, met 75 sur 100 et nous dit « Comme expérience multijoueur, ce nouveau Mario et Sonic peut être considéré comme le One-to-Switch de ce Noël. Un jeu amusant qui se joue entre amis, même s'il manque d'événements et que le mode histoire est court et orienté enfant. Si vous voulez jouer seul, il y a clairement de meilleures options. » Enfin, IGN, lui, met 6,4 sur 10 et nous dit « Cette dernière entrée dans la série des Mario et Sonic aux Jeux Olympiques présente la meilleure collection de mini-jeux et d'événements. » Ça, c'est quand même à noter. Mais, car il y a un mais, le jeu est entravé par un mode histoire fastidieux et une mauvaise exécution générale. Bon, globalement, vous voyez que c'est quand même assez contrasté. Donc je voulais vraiment vous en parler. On a fait le mettre sur la liste de Noël et finalement on s'est décidé de pas le mettre. Alors je me suis donc dit qu'il était fort probable que beaucoup d'entre vous se posaient la question. Donc voilà, au moins maintenant avec toutes ces notes, ces avis, vous êtes un petit peu fixés. Après à chacun de se faire sa propre opinion et de savoir où est son curseur pour accepter ou pas toutes ces critiques. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à en causer autour de vous, à partager un max sur les réseaux sociaux, c'est vraiment super important. Un commentaire, une question ou juste une envie de tailler le bout de gras avec votre serviteur et les autres auditeurs, eh ben c'est simple, il y a le compte Twitter de l'émission, @revuedepressejv, tout collé. Il y a aussi la page Facebook, vous tapez simplement Revue de Presse JV et bim, vous tombez dessus. Sinon, l'émission a un superbe Discord abritant une non moins superbe communauté. Tous les liens, de toute façon, sont en description de cet épisode. Je rappelle que toutes les éditions sont dispo H24 sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et sur quasiment toutes les applis de podcast, sans oublier la web radio Play Geek où l'émission est diffusée chaque mercredi. Bref, je suis partout. Oui, c'en est presque flippant. Lutte contre l'homophobie, les créateurs de jeux vidéo s'engagent. C'est un papier que j'ai lu sur Esbeck Erika, signé Roman Munier. Et avant de vous parler de ce papier, sur un sujet que j'avais déjà abordé lors des saisons précédentes, Je vous préviens par avance, il y aura quelques insultes, donc homophobes, hein, que je vais citer. D'habitude, j'aime bien avoir un langage quand même qui est pas trop ordurier dans cette émission. Mais là, il faut citer les choses. Hein. Il faut vraiment, pour aborder ce sujet sérieusement, et Dieu sait que c'est un sujet très sérieux, on ne peut pas le faire sans dire les mots. Voilà, donc c'est pour ça que je tenais à vous prévenir qu'il y aura des insultes qui seront citées, des insultes qui pourrissent la vie de tant et tant de personnes. Et voilà, pour aborder le sujet, il ne faut pas mettre sous le tapis ces termes-là. Voilà, si on veut dénoncer ce fléau de l'homophobie, et là, plus particulièrement donc dans le milieu du jeu vidéo. Et donc, le papier nous dit que les propos homophobes sont monnaie courante dans les parties de jeux en ligne, comme un League of Legends par exemple, ou un World of Warcraft. Et donc l'auteur du papier de se demander et si la lutte contre l'homophobie passait par le jeu vidéo lui-même. Et donc cette journaliste, Roman Munier, a rencontré des gens lors de la Paris Games Week, vous savez, qui s'est terminé il n'y a pas si longtemps que cela. Or, sont rapportés des propos d'Alex Doubreau, cofondateur de l'association Next Gamer, hein, G-A-Y, Gamer, qui nous dit « Trouvez-moi un seul joueur qui n'ait pas fait face à des propos homophobes lors d'une partie en ligne. Quelqu'un qui n'a pas été une seule fois baigné d'insultes de type fag ou PD. Je ne dis pas qu'un seul sale PD va être impactant, je vous dis simplement que ce genre de propos, on peut le lire et l'entendre jusqu'à 150 fois par heure, ce qui crée un sentiment d'exclusion et conduit parfois de jeunes joueurs au suicide. » Alex Doubreau, donc, qui anime, nous dit-on avec bienveillance, hein, et depuis 2008, une communauté donc de gamers, G-A-Y, et on en avait déjà parlé hein, dans l'émission. Donc le papier poursuit en nous disant que les communautés LGBT en ligne ou hors ligne, très nombreuses, hein, sont décrites donc par Alex Doubreau comme une solution temporaire, voire d'urgence, hein, en attendant que la situation s'améliore pour ces joueurs. Malika VR, hein, une joueuse qui a intégré l'association Next Gamer, hein, nous dit, je cite, « Les gens pensent qu'on s'identifie par notre sexualité, mais on n'a pas envie de se regrouper entre nous pour cela. On le fait parce qu'on nous réduit à notre sexualité, consciemment ou inconsciemment. » Plus loin, l'article nous parle de Dotnode, hein, vous savez, le studio français basé à Paris. Life is Strange, hein, est-il besoin de vous le représenter ? Donc Dotnode est pris en exemple hein, dans ce papier comme un studio de jeux vidéo qui mise sur des narrations plus modernes. Est interrogé Masha Lopez, un narrative designer chez Dotnode, qui nous dit, je cite, « On parle de liens familiaux, du racisme, de l'homosexualité, de la bisexualité. On cherche à proposer à nos joueurs des gameplays qui ne reposent pas uniquement sur des personnages virils à l'extrême ou sur de la compétitivité. » Je refais une petite parenthèse, excusez-moi, c'est ma spécialité, mais... Je trouve que le traitement de l'homosexualité tel qu'il a été fait dans The Last of Us, dans le scénario additionnel Left Behind, et tel qu'on l'a vu dans les trailers annonçant The Last of Us Part 2, en tout cas si vous avez fait Left Behind, je trouve que c'est amené vraiment avec beaucoup de sérieux, loin vraiment de tous ces clichetons qu'on a pu voir dans d'autres jeux ou dans d'autres œuvres. Et je trouve que Naughty Dog a une approche aussi là-dessus qui est vraiment très intéressante. Bref, revenons avec Masha Lopez, donc qui a travaillé sur Life is Strange 2 et qui nous parle donc du jeune héros de Life is Strange 2. Elle nous dit « Il est américain, hein, d'origine mexicaine, il a 16 ans, l'âge auquel il s'interroge sur son identité, sa sexualité. On inclut ses questionnements de manière organique. Dans un épisode, le joueur pourra choisir d'avoir une romance avec une femme ou un homme. Et parfois, le garçon pleure. Et oui, ça arrive, je confirme, même si on n'a pas l'habitude de le voir dans les jeux vidéo », précise-t-elle avec humour. Dans le jeu vidéo, j'ai la sensation, nous dit-elle, qu'on a une responsabilité plus lourde que dans les autres médias, car on parle à un public très jeune. Alors, pas seulement, bien sûr, pas toujours très jeune, mais c'est important, effectivement, de sensibiliser et d'amener un discours d'ouverture loin des clichés à un public jeune, et parfois même moins jeune, parce que certains clichés ont la vie dure, pas que les jeunes parfois qu'il faudrait rééduquer, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc ce jeune public, nous dit l'article, Nora Meran, alors j'espère que je prononce bien, administratrice du refuge, le connaît bien. Depuis qu'elle travaille donc dans cette association, vous connaissez sûrement le refuge, mais le papier nous le rappelle, hein, c'est une association qui accompagne les 18-25 ans victimes d'homophobie et de transphobie en rupture avec leur famille. Et à l'occasion, donc ils font de l'accueil, mais ils font aussi de la pédagogie dans les collèges et lycées. Et d'après Nora Memram, le constat est vraiment alarmant. Je cite, « Ils se traitent de PD dans la cour de récré sans même savoir ce que ça veut dire. Ils pensent à pédophiles, même. Ils ne sont pas du tout éduqués à ces questions-là. Parfois, on m'en demande même si deux garçons peuvent avoir des bébés. Les jeux vidéo et les séries peuvent permettre de se poser des questions comme « Comment ce personnage très viril, très masculin, peut-il être gay ?» Présenter à ses enfants des personnages différents, intégrés à un cadre qu'ils considèrent être la normalité, leur permet de concevoir une nouvelle normalité. Et je refais une parenthèse, je suis désolé, mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se font du côté des cartoons. J'avais fait il y a très longtemps une vidéo sur Bienvenue chez les Loud avant que ça cartonne, mais maintenant je sais que ça ne passe plus que sur Cartoon Network, ça passe sur une des grandes chaînes nationales, je ne sais plus laquelle. Bref, Bienvenue chez les Loud, vous avez donc le héros qui s'appelle Lincoln, qui est un jeune garçon, son meilleur ami est un enfant adopté par deux papas. Voilà, son deux papas, c'est un couple gay. Et amené sans cliché, etc., comme manière tout à fait naturelle, et je trouve ça formidable que même dans les cartoons, on voit de plus en plus ces sujets de société très importants être développés. Voilà, je referme encore la parenthèse. Je vous mettrai le lien de ce papier qui est extrêmement long et vraiment très intéressant. J'aimerais quand même parler, donc c'est un peu plus loin dans le papier, de ce passage sur Microsoft, puisque Roman Meunier, donc l'auteur du papier, nous dit que l'inclusion dans le jeu vidéo passe aussi et presque avant tout par le recrutement de profils divers et variés dans le domaine du développement et de la conception, ainsi que dans l'e-sport. Elle s'est entretenue avec Laurence Lafont, Chief Operating Officer de Microsoft France, et qui est en charge de la diversité. Madame Lafont nous dit « Les sociétés doivent concevoir des cadres pour permettre à chacun de s'exprimer, quel que soit son genre, son âge ou ses origines. » Et donc à la question de diversification des équipes, elle nous dit « Pour cela, on a besoin de rôles modèles, pour donner envie et montrer que c'est possible. Il faut aussi former les managers à questionner leur méthode de recrutement, à remettre en question leur comportement. » Et oui, puisque le papier nous rappelle que cet enjeu, à la fois économique, parce que ça élargit la cible bien sûr, et sociétal, s'accompagne d'une véritable transformation de l'entreprise. Laurence Lafont nous dit « On est à un moment clé. » Il faut s'assurer que nos algorithmes ne sont pas conçus que par des hommes, que nos données soient plus ouvertes et que nos produits soient conçus par des personnes plus représentatives de notre société dans son ensemble. Bref, je vous le disais, c'est un très bon papier à aller lire d'urgence sur Uzbek Erika. C'est un site que je ne connaissais pas, pour tout vous dire, en faisant mes recherches pour l'émission comme chaque semaine, que je suis tombé dessus. Un très bon papier signé Roman Meunier, j'espère que je n'écorche pas son nom. Pour lire l'intégralité, je vous mets le lien, bien sûr, dans la description de l'émission. Et je pense qu'il est l'heure, hélas, de nous quitter. Et oui, c'est la fin, mes amis. Mais pas de panique, on se retrouve alors non pas la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, mais dans 15 jours. N'oubliez pas de partager un maximum pour le Marathon Cast. C'est très très important. Je compte sur vous. J'aimerais remercier les tipeurs, car vous le savez, vous pouvez soutenir l'émission sur Tipeee ou sur Patreon. Alors sur Patreon, pour l'instant, il n'y a personne. Mais un nouveau tipeur a rejoint la grande famille de la revue de presse JV. Donc Néo Calimero, bienvenue, welcome back, même si je ne dis pas de bêtises. Donc merci à toi pour ton soutien. Merci mille fois. Merci également à Malodélic, à Crocodine, à Pipo Letsu, Seb22, Mopral, Trifon Valentin, Siwididju, Electrotactics, Tophobie, Fabien, Clem, Deben, Yvan Le Pierrot, Machin Truc 76, Garan, Lor, Hiromitsu, HXC, Tulkas, Bertrand Amar, Cédric, Lina Nounette, Pikachu, HL9, Nicolas Vanny, Fresixni, Licarnoct, Melkoc, Lutherian, Aza, Sloko, Anev, Olix, Forza Pedro, JP Madère et Monsieur A. Merci à toutes et tous pour votre soutien. Merci à toutes les auditrices, à tous les auditeurs. Je vous souhaite une excellente semaine, deux excellentes semaines. Marathon Cast, n'oubliez pas. Bref, je vous souhaite panache et robustesse. Et je vous fais de gros bécos et vous dis à tantôt. Allez, bye bye.